بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله à toutes. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'on est un petit groupe. Alhamdulillah, c'est très bien. Et donc, je laisse les micros ouverts. Donc, si durant la séance vous avez des questions, vous voulez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc, on va partir là-dessus. Mais bon, voilà, si ça se passe un peu mal, si on a trop d'interférences, je couperai les micros. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à passer par le chat. Ou alors, on laissera les questions pour la fin du cours. Mais dans un premier temps, on part là-dessus. Et Inch'Allah, Bénillah, tout se passera pour le mieux. Alors, c'est le premier cours de l'histoire du monde arabo-musulman, et plus particulièrement axé sur l'histoire des quatre califes. Alors, si vous avez eu, et vous devez normalement avoir eu un cours de Sira auparavant, vous savez très bien, en règle générale, que le cours de Sira, mais alhamdoulilah, on sait très bien comment se passe l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son histoire de manière générale. On a souvent beaucoup, alhamdoulilah, de cours qui se donnent sur la Sira dans les différentes mosquées ou dans les différents instituts ici à Bruxelles. Donc, on a beaucoup de connaissances, alhamdoulilah, sur la Sira de manière générale. Mais, généralement, l'image qu'on a, c'est qu'à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire du monde musulman s'arrête. Or, c'est pas du tout le cas. Il va se passer énormément d'événements après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais très souvent, ce qui se passe après, bah, c'est un point d'interrogation pour beaucoup d'entre nous. On pense souvent que ce qui se passe après, c'est pas très important pour notre histoire. Or, pourtant, c'est fondamental. Alors, à travers ce cours du monde arabo-musulman, il y a plusieurs objectifs qu'on s'est donnés, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre ces objectifs au cours de cette année, Inch'Allah. Donc, l'objectif ici, c'est de donner un aperçu général de l'histoire du monde arabo-musulman, et plus particulièrement concernant l'histoire des quatre califes bien guidés. L'objectif aussi, c'est de comprendre les phases de domination du pouvoir musulman, d'islamisation et d'arabisation, parce que le pouvoir musulman, des fois, ce sera des phases d'arabisation, et pas d'islamisation, et puis des fois aussi à la fois les deux, et parfois ni l'un ni l'autre. Il faudra aussi apprendre à situer les principales dynasties, les grandes figures qui ont marqué l'histoire du monde arabo-musulman. C'est aussi connaître la géographie de ces régions et leur dénomination ancienne, et puis c'est surtout analyser les impacts actuels des différentes phases. Pourquoi c'est important? Parce qu'à travers l'histoire, on va tirer des leçons et on va comprendre finalement à lire, avoir une grille de lecture totalement différente, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde actuel. Donc, l'histoire a toujours un impact sur notre présent. Et donc, pourquoi, finalement, connaître l'histoire du monde musulman, de manière générale, et pourquoi connaître l'histoire avec un grand H de manière globale, est essentiel? Parce que l'histoire, en fait, elle joue un rôle fondamental dans la construction de notre identité, à la fois collective, mais aussi individuelle. En fait, c'est une sorte de miroir qui nous permet de comprendre à la fois notre passé, de saisir notre présent et aussi de nous projeter dans un avenir qui sera plus éclairé. Et donc, l'histoire du monde musulman en particulier, c'est un héritage qui est immense et qui est fascinant et qui est forgé à la fois par des conquêtes, des siècles de conquêtes, des siècles de découvertes, de savoirs, des défis, mais aussi il y a aussi pas mal de fitna, d'épreuves et des crises qui vont traverser et qui vont secouer le monde musulman à des moments très particuliers. Et donc tout ça, ça forge une civilisation musulmane qui est incroyable, et pourtant, cette histoire, elle reste largement méconnue, non seulement du reste du monde, mais aussi parmi nous les musulmans. Donc notre époque, si vous voulez, on est marqué par une sorte d'amnésie historique et où beaucoup de musulmans vont ignorer les grandes figures, les événements marquants et les réalisations de leur héritage, de cette civilisation. Donc on se réclame finalement de cette civilisation musulmane, mais pourtant, pas des noms comme Muawiya, Harun al-Rashid ou encore Salah ad-Din Ayyubi, encore que Salah ad-Din Ayyubi, voilà, son nom, généralement, va évoquer tout de suite quelque chose, mais quand on demande quelle est l'histoire de Salah ad-Din Ayyubi, quel a été véritablement son apport au niveau de l'histoire du monde arabo-musulman,
Bah, souvent, c'est une point d'interrogation. Donc, ils vont tous jouer des rôles déterminants dans l'histoire islamique, mais ils sont souvent étrangers auprès de nous. Donc, nous, on se réclame paradoxalement de cette civilisation musulmane, mais à côté de ça, ben, on ne connaît pas ces grandes figures. Et cette ignorance, eh bien, elle est dommageable. Pourquoi ? Parce qu'elle nous coupe des leçons que l'histoire a à nous offrir. Et comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, celui qui connaît l'histoire, large est son esprit et minime sont ses erreurs. Et donc cette situation, elle illustre parfaitement quoi ? L'importance de la connaissance historique. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour éviter de répéter les erreurs du passé. Et ça va nous permettre aussi de guider nos actions vers de meilleures décisions. Donc quand j'ai une grille de lecture de l'histoire, quand j'apprends finalement quelles ont été les erreurs qui ont été commises par le passé, l'objectif c'est de quoi ? C'est d'en tirer les leçons et de les appliquer à mon quotidien. Et quand on connaît finalement les épreuves et les fitnas par lesquelles sont passés nos pieux prédécesseurs et les musulmans avant nous, eh ben, on tire des expériences de leurs épreuves et on comprend mieux qu'aujourd'hui on traverse une fitna et comment on peut surmonter et comment traverser cette fitna. Donc finalement, l'histoire, c'est bien plus qu'un simple enchaînement de faits, de dates, etc. C'est une sorte de maître silencieux et l'objectif, c'est une sorte de mentor qui va éclairer à la fois nos choix et qui va nous montrer la voie à suivre. Alors, pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui de connaître l'histoire du monde musulman ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour se réapproprier notre histoire, c'est une manière et c'est une clé surtout pour comprendre notre présent. Alors notre présent, parce que l'histoire, elle n'est pas figée dans le passé. Elle est encore vivante, cette histoire. Elle va continuer de nous influencer et qui va continuer d'influencer jusqu'à aujourd'hui notre présent. Et donc, les systèmes de croyances, les relations géopolitiques, les structures sociales et même les conflits actuels vont trouver leur racine ou ça dans le passé, dans l'histoire du passé, dans des événements historiques que nous devons connaître pour mieux comprendre. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, avec la guerre à Gaza. La guerre actuelle à Gaza, elle ne peut pas être comprise totalement si nous ne connaissons pas l'histoire de la Palestine et du conflit israélo-palestinien de manière plus générale. On ne peut pas comprendre les tenants et aboutissants du 7 octobre si on ne connaît pas l'histoire de la Palestine, si on ne connaît pas finalement qu'en 1949, il y a eu la Nakba, que quand les sionistes sont arrivés avec un projet de colonisation de la Palestine et de reconquête des terres qu'ils pensent être les leurs, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, un 7 octobre, on ne peut pas comprendre la guerre actuelle à Gaza et quel est l'objectif des sionistes derrière tout ce conflit. Donc si on n'a pas cette grille de lecture, pour nous c'est juste la guerre a commencé le 7 octobre. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Je vous donne un autre exemple, la dynastie Abbaside. Alors, la dynastie abbasside, elle est souvent considérée comme l'âge d'or du monde arabo-musulman, et avec des avancées considérables dans le domaine de la science, de la médecine, de l'astronomie, de la philosophie. Et c'est pas seulement une époque de prospérité matérielle, mais c'est aussi un moment de dialogue interculturel entre différentes civilisations et un échange de savoir. Donc les savants musulmans de cette période vont non seulement traduire, mais aussi vont enrichir quoi ? Les œuvres des Grecs, des Perses, des Indiens, et c'est ce qui va permettre d'être les bases finalement de nombreuses découvertes modernes. Alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le monde est de plus en plus divisé, eh ben, revisiter ces périodes, ça peut nous inspirer à quoi ? Eh ben, tout simplement reconstruire des ponts de compréhension et de coopération. Donc ça c'est une première chose, se réapproprier notre histoire, c'est une clé pour comprendre notre présent actuellement. Alors l'histoire aussi c'est l'importance de connaître l'histoire de l'islam, c'est parce que l'histoire c'est un miroir de nos succès et de nos échecs. Donc comprendre l'histoire c'est aussi être capable d'apprendre de nos erreurs collectives. Comme je l'ai dit en introduction, le monde musulman, tout comme toute autre civilisation, va connaître des périodes de grandeur, mais aussi de décadence, des moments plus sombres, des moments de fitna, de réel fitna, ça va être très très difficile, notamment vers la fin du califat de Othman ibn Affan, et surtout durant tout le califat de Ali ibn Abi Talib. Et donc ici, il ne s'agit pas simplement de glorifier le passé, ou de mentionner les échecs, mais c'est surtout d'étudier ses erreurs avec humilité et intelligence. Donc ici, c'est quelque chose que je vais, Inch'Allah, répéter tout au long de ce cours. L'objectif, c'est que nous prenions la posture, la position d'historien, d'historienne en l'occurrence, et ne pas être guidé par nos émotions. On va constater. Il ne s'agit pas de se dire à un moment donné, ah oui, mais lui, il avait raison, mais lui, il avait tort. Je ne comprends pas trop. C'est souvent quand on évoque les périodes de fitna, les élèves, elles sont un peu perturbées, et puis elles disent, mais il avait tort. Mais pourquoi il a réagi comme ça? Mais en fait, l'objectif ici, ce n'est pas de déterminer qui avait raison, qui avait tort. Pas du tout. L'objectif, c'est d'étudier, de lire l'histoire avec la posture, la position d'un historien, d'une historienne. Et donc ici, on va chausser ces lunettes-là pendant toute l'année avec l'objectif de quoi ? D'en tirer les leçons. Les leçons pourquoi ? Pour nous, pour que nous puissions les mettre en application et tirer une expérience qui nous soit positive et profitable dans notre vie de tous les jours. Donc encore une fois, je le répète, ici, c'est l'objectif, c'est d'étudier ces erreurs avec humilité, avec intelligence, mais sans être guidé par nos émotions. Parce que par moments, ça va être très très difficile, surtout quand vous allez voir que voilà, des musulmans s'entretuent entre eux. Voilà, c'est des moments qui vont certainement vous choquer, que vous n'allez pas comprendre. Et l'objectif, c'est pas de comprendre, mais c'est d'analyser, de pointer les leçons et de mettre ces leçons à profit. Donc les erreurs politiques, les divisions, les conflits entre les dynasties, les querelles théologiques vont parfois et vont certainement affaiblir le monde musulman à certains moments de l'histoire, mais elles vont aussi servir de leçon pour des générations futures que nous sommes, pour nous en tant que génération future, mais aussi pour les prochaines générations. La chute des grandes dynasties comme les Omeyyades, bon, on verra pas les Omeyyades cette année, mais Inch'Allah, puis là, si on a l'objectif de continuer tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette année, voilà, ce sera principalement la fitna qui va se dérouler à la fin du califat de Othman ibn Affan, et puis la fitna durant le califat de Ali ibn Abi Talib. Voilà, c'est des leçons qu'on va en tirer, Inch'Allah, bi'idhnillah, et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses au niveau de l'histoire. Et donc, en tirant les enseignements de ces échecs, on va éviter de quoi ? Bah, de répéter tout simplement les mêmes erreurs dans nos sociétés modernes, que ce soit au niveau politique, économique ou social. Et donc, ça nous permet finalement de quoi ? Connaître notre histoire, ça nous permet de mieux appréhender les défis contemporains avec une perspective plus éclairée. Donc on a cette chance-là de pouvoir nous poser, d'analyser l'histoire. Donc nous, on n'est pas acteurs de cette histoire. Quand les acteurs sont sur le moment, ils vivent l'histoire. Et donc nous, c'est très facile quand on arrive des siècles plus tard en disant « Ah mais lui, il avait tort, c'est pas comme ça qu'il aurait réagi. » Mais lui, il a vécu l'histoire à ce moment-là, il a réagi de cette manière-là. Donc l'objectif, c'est pas de dire « celui-là, il avait raison, celui-là avait tort », mais c'est vraiment d'avoir une perspective globale. On a cette chance de pouvoir lire toute l'histoire, du début jusqu'à la fin, et d'en tirer donc les leçons qu'on peut appliquer au quotidien. Troisième but, finalement, de pourquoi connaître l'histoire du monde musulman, c'est de redécouvrir des figures oubliées et leur impact. Alors l'histoire, elle est peuplée de figures extraordinaires. L'histoire du monde musulman est peuplée par des figures extraordinaires, que ça commence aussi bien avec le meilleur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite, les grands compagnons, et puis d'autres. Et puis, toutes ces personnes, elles ont laissé une empreinte durable sur le monde. Pourtant, beaucoup d'entre elles sont tombées dans l'oubli. Je pense au calife Omeyyad Harun al-Rashid, par exemple, qui est une figure emblématique de l'âge d'or islamique. Et lui, son règne va être marqué par une prospérité intellectuelle, culturelle, et aussi son échange diplomatique avec Charlemagne, qui était roi des Francs. Et ça montre aussi, tout simplement quoi ? Bah, les chances qui existaient déjà entre les musulmans, entre le monde musulman et d'autres civilisations. On a aussi Salah ad-Din Ayyubi, que j'avais déjà cité, qui est célèbre pour sa reconquête de quoi ? De Jérusalem. Et son humanité particulière pendant les croisades. Et ça reste aussi un modèle de justice et de courage. Donc c'est fascinant de noter que quoi ? Que bien qu'il ait été un adversaire redoutable, eh bien son comportement, son, son éthique bah, lui a valu tout simplement quoi? Bah, l'admiration de ses ennemis, comme le roi Richard Cœur de Lion. Et ces figures, elles montrent que finalement, quoi, l'histoire musulmane, c'est pas seulement une succession de batailles, pas du tout, mais c'est aussi un héritage en matière de valeurs éthiques et humaines très importantes, universelles. D'ailleurs, c'est la base de l'islam. Et là, à travers justement des grandes figures comme Salahuddin Ayyoubi, Haroun al-Rachid et d'autres encore, on se rend compte finalement que c'est surtout l'islam qui les a forgés. Et dans leur éthique et dans leur comportement, c'est ce qui transparaît. Et on le verra particulièrement avec les quatre califes bien guidés qui ont reçu finalement le meilleur des éducateurs et la meilleure des éducations à travers celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quatrième point pour lequel c'est très important de connaître l'histoire du monde musulman, c'est parce que pourquoi transmettre en fait cet héritage? C'est une question que je vous pose, c'est pourquoi transmettre cet héritage aujourd'hui? Transmettre l'histoire du monde musulman, c'est surtout assurer quoi? Ben, une continuité dans le temps. Une continuité de quoi? De notre identité collective et d'un patrimoine culturel, cultuel. Et c'est aussi comprendre notre civilisation, ben, elle n'a pas été coupée du reste du monde. C'est une civilisation qui a été en contact avec d'autres civilisations, qui avait des échanges, qui avait de la tolérance entre toutes ces civilisations. Donc, le monde musulman, il a accueilli en son sein des juifs, il a accueilli en son sein des chrétiens, des zoroastriens et d'autres communautés religieuses. Et c'est ce qui a permis de créer des sociétés dynamiques, pluriculturelles. Alors, on dit souvent qu'aujourd'hui, le monde musulman, bah, on est un peu fermé, on est voilà, très sectaire, très communautaire. Pas du tout, en fait. Le monde musulman a toujours été très ouvert. Et on le voit déjà rien qu'à au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, où justement il y a à la fois des juifs, des chrétiens qui sont présents, et cet échange-là se fait très très tôt dans l'histoire du monde musulman et va se poursuivre tout au long de son histoire. Donc aujourd'hui, notamment dans un contexte où le dialogue interculturel, interreligieux est plus que nécessaire, bah justement en revisitant cette histoire, on arrive à comprendre que bah, c'est possible de construire un avenir avec toutes ces civilisations. Donc, l'objectif aujourd'hui, en nous replongeant dans l'histoire du monde musulman, c'est pas simplement de ressusciter un passé révolu, mais c'est, encore une fois, je le répète, pour en tirer des leçons, pour nous inspirer de tout leur succès finalement, de comprendre aussi toutes leurs erreurs, parce qu'il y en a eu aussi des erreurs. Et ça, il faut pas avoir une image toute rose, finalement, de l'histoire. L'histoire, ça n'a pas toujours été rose, justement. Il y a eu des périodes très sombres, très très sombres, où on a vraiment du mal à imaginer que c'était le cas. Et pourtant, il y a eu des grosses crises au sein du monde musulman. Et donc, ici, l'objectif, c'est vraiment de comprendre ces erreurs pour ne pas les reproduire et surtout pour en tirer des leçons. Donc, l'histoire, c'est pas un luxe intellectuel, loin de là, c'est une nécessité. En fait, pour toute société qui veut se développer, qui veut s'améliorer et qui veut éviter bah, les pièges du passé, tout simplement. Donc, je vous invite, à travers ce cours, à nous réapproprier notre histoire commune, à redécouvrir les grandes figures qui ont façonné notre civilisation, et particulièrement les quatre Calife bien guidé, qui sont les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sont donc Abou Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum, et à en tirer des enseignements de leur vie. Pourquoi au final? Pour nous améliorer et devenir non seulement des meilleurs êtres humains, mais aussi des meilleurs musulmans tout simplement. Donc l'objectif ici, à travers une fois la connaissance de l'histoire, c'est pas juste j'ai appris, je connais et je peux me la raconter entre guillemets devant d'autres personnes quand on parle un peu d'histoire. Ici, l'objectif, c'est encore une fois de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque acte qu'on pose dans cette vie, l'objectif finalement, au final, c'est de cheminer et d'atteindre cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'objectif en connaissant et en apprenant l'histoire des quatre califes bien guidés, bah, c'est de tirer tous les enseignements possibles de leur histoire. De voir subhanahu wa ta'ala comment ils réagissaient dans des périodes de grande fitna, comme dans des périodes qui ont l'air de prospérité, et pourtant, normal quand tu vois l'affluence de toutes ces richesses à travers les conquêtes et l'expansion des territoires musulmans, quand il voit toutes les richesses affluer vers Médine, il est triste, Omar ibn al-Khattab. Il pleure et il dit finalement, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de m'éprouver moi à travers ces richesses. Donc, d'un côté, on se dit, regardez, subhanallah, il y a cette ni'ama, ce bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux musulmans parce qu'il leur permet justement de s'étendre et d'étendre les frontières du monde musulman. Mais Omar, lui, sa grille de lecture est totalement différente parce qu'il sait que l'afflux de richesses, ça veut dire quoi? Automatiquement, ça veut dire un attachement à cette dunya. Et donc Omar, il a cette perspective-là. Et donc on apprend à travers son comportement, à travers ses réactions, de se dire attention en fait. La richesse, c'est un attachement à cette dunya. Et lui, il voulait s'en préserver et préserver l'ensemble des musulmans. Donc tout ça pour vous dire finalement que on va apprendre énormément, incha'Allah, bi'inillah, de la vie de ces grands compagnons, de ces quatre califes bien guidés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala surtout nous mette la baraka. Alors, avant de démarrer à proprement parler l'histoire d'Abu Bakr, radiallahu anhu, puisque c'est avec lui qu'on va démarrer, incha'Allah, je pense que c'est important qu'on se situe. Donc, les quatre califes bien guidés, ben, ils arrivent où? Ils sont en Arabie, tout simplement, bien évidemment. Et donc, quand l'islam, avant même que l'islam n'arrive en Arabie, ben, il faut connaître cet endroit. Qu'est-ce que l'Arabie, finalement? L'Arabie, comment se présente l'Arabie un peu avant l'avènement de l'islam? Alors, ça, c'est véritablement un carrefour des civilisations. Donc l'Arabie du 6e siècle, avant l'apparition de l'islam, c'est souvent... il me met connexion instable, donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a un problème au niveau du son ou de la connexion. Donc l'islam, l'Arabie plutôt, est souvent perçue comme une région qui est isolée, qui est marginal, qui est coupé des grands empires qui sont finalement juste à côté. Et pourtant, cette image, elle est trompeuse. En réalité, l'Arabie, c'est un territoire qui est stratégique, qui est au cœur finalement de plusieurs routes commerciales. Il y a plusieurs routes commerciales qui la traversent, hein, puisqu'on le sait à travers l'histoire de la Sirah, notamment avec les routes qui mènent vers le Yémen et vers le Chem. Mais c'est aussi des routes commerciales qui vont les relier vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Europe. Et même si l'Arabie est très peu développée au niveau politique, ben elle va jouer un rôle clé dans les échanges commerciaux avec les puissants empires de l'époque que sont l'Empire byzantin à l'ouest et l'Empire perse-sassanide à l'est. Alors, on va définir plusieurs concepts pour bien comprendre dans quoi on avance et pour que ce soit, Inch'Allah, bi'idhnillah, plus clair dans votre esprit. Alors, le monde arabe et le monde musulman sont deux concepts très importants. Alors, le monde arabe, ça comprend les pays dont la langue officielle est l'arabe et qui est marquée dans la constitution. Donc ça, c'est important. Donc, le monde arabe, ça comprend les pays dont la langue officielle, c'est l'arabe, et qu'il l'a marqué dans la Constitution. Et donc, si on regarde la carte du monde arabe, il y a 23 États, 23 pays arabes, dont la Palestine, même si elle n'est pas reconnue que partiellement, en tout cas par certains pays dans le monde. Et ici, en fait, le monde arabe, ce n'est pas une entité politique, contrairement par exemple à la Ligue arabe, où là c'est vraiment politique et là on a plus de pays, la Ligue arabe qui a été créée en Égypte. Alors, il existe en vérité trois grands critères qui vont définir le monde arabe. Un critère géographique, un critère linguistique et un critère politique. Et là, normalement, si on regarde les trois critères, géographique, linguistique, politique, il y a un truc qui devrait nous frapper, c'est que le critère religieux n'est pas rentré, n'est pas repris, n'est pas pris en ligne de compte pour définir le monde arabe. Donc, vous ne devez pas être un pays musulman pour être automatiquement un pays arabe. Et en fait, en regardant cette carte, je vais vous la montrer, on remarque quoi? Que le monde arabe, il est essentiellement quoi? africains, et plutôt maghrébins. On a juste deux pays, trois pays de l'Afrique subsaharienne, que sont le Soudan, la Mauritanie et la Somalie. Donc ici, on a tout le Maghreb, puis on a l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Jordanie et les Émirats. Et donc, ce sont surtout les pays du Maghreb qui vont commencer, qui vont composer le monde arabe. À la différence du monde musulman. Si on s'arrête sur le monde musulman, bah, il n'y a qu'un seul critère pour le monde musulman. Bah, c'est le critère uniquement religieux. Et quand on étudie plus précisément le monde musulman, on s'aperçoit en fait que quoi ? Que la moitié des musulmans du monde vit dans 4 pays d'Asie. 4 pays d'Asie. Donc la moitié des musulmans du monde vit dans 4 pays d'Asie, l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Un musulman sur deux n'est pas arabe, ni africain même. Donc c'est énorme. Donc tout de suite déjà, les clichés qui voudraient dire que les musulmans sont forcément des arabes. Bah là on a une preuve concrète statistique, les chiffres parlent, les pays majoritairement musulmans sont asiatiques. Et donc la moitié des musulmans du monde entier vit dans 4 pays d'Asie. L'Indonésie, c'est le pays qui compte le plus de musulmans. Alors, quel est le deuxième ? C'est le Pakistan. Il y a une petite erreur ici sur le diaporama. Donc, veuillez ne pas en tenir compte. Ce n'est pas le Nigeria. Le Nigeria se classe plus après les 4 pays d'Asie. Donc, c'est l'Indonésie en 1 et puis le Pakistan en 2. Et l'Asie, donc. Et toujours pas le monde arabe. Et aujourd'hui, on compte combien de musulmans à travers le monde ? 1,9 milliard de musulmans à travers le monde. Et 220 millions, donc rien qu'en Indonésie. C'est 99% de la population. Donc quasi toute l'Indonésie est musulmane. Donc soit un huitième de la population mondiale. Ensuite, on a le Pakistan, entre 95 et 97% de la population. Ensuite, on a l'Inde. Et enfin, on a le Bangladesh. Et donc, si on regarde la carte du monde musulman, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est que les pays qui étaient essentiellement arabes se situent en vert foncé. Par contre, les États musulmans sont tout de suite beaucoup plus importants et ont fait un grand bond vers l'Asie. Et donc, énormément d'États musulmans se trouvent en Asie. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, les États arabes, on va les trouver principalement en Afrique et au Maghreb, et quand on parle d'États musulmans, on fait un bond, du côté de l'Asie. Et là, tout de suite, on a beaucoup plus de représentants. Alors l'Inde, il faut savoir que eux, comme ils ont une population de plus d'un milliard d'habitants, avec environ 200 millions de musulmans, ben, l'Inde compte une grosse communauté de musulmans, même si ça ne représente que environ 14% de la population indienne. Donc voilà, c'est proportionnel. Comme ils sont 1 milliard, forcément, tout de suite, il y a beaucoup de musulmans, même s'ils ne sont pas une majorité. Oui, Shadia.
Ah, j'aurais une petite question. Donc ici, en vert clair, il est mis État musulman. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ceux qui sont en vert clair sont des États musulmans parce qu'ils sont majoritairement musulmans, c'est ça ?
Et qui sont le critère de la religion. Donc c'est le critère religieux qui prime. Donc ce sont des pays musulmans qui a une forte... C'est la religion d'État. L'islam est la religion
d'État. Et donc l'Arabie Saoudite, c'est pas la religion d'État, alors si on se fie à...
C'est pas la religion d'État. Donc ça, c'est un État musulman, c'est-à-dire qu'il y a des... Dans son sein, il y a une forte communauté musulmane. Donc l'Arabie Saoudite, elle est considérée comme État... Donc ici, on fait la différence, en fait. Plus... Donc c'est ceux-là, c'est ceux-là plus,
dedans.
Voilà, plus les autres. Donc ici, en vert, ce sont les États arabes et musulmans. Mais si on devait s'arrêter juste sur le critère arabe, à ce moment-là, tous les autres disparaissent. Donc on n'a que le monde arabe.
Ok.
Donc tous ceux-là sont des États musulmans, bien évidemment. Mais si on rajoute le critère musulman, tout de suite, on agrandit Parce que souvent, on confond le monde arabe et le monde musulman. Or, ce sont deux concepts totalement différents. Si on s'arrête, parce que souvent, bah, notre objectif, c'est de se dire monde arabe égale monde musulman. Pas du tout. Parce qu'ici, on a une preuve claire que le monde arabe, bah, si on s'arrêtait juste sur le monde arabe, bah, on a à peu près ces pays-là, en rajoutant la Somalie. Stop. Mais si on dit monde musulman, ah bah tout de suite, c'est beaucoup plus important. Et n'oubliez pas ici qu'on a forte minorité musulmane en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Donc on est présent un peu partout dans le monde, mais c'est surtout en Asie que se concentre la part la plus importante des musulmans. C'est surtout ça en fait, c'est de se dire attention à ne pas confondre le concept de monde arabe et celui de monde musulman. Parce que le concept de monde arabe, c'est pas le monde musulman. C'est deux choses totalement différentes. Quand on parle du monde musulman, voilà, on inclut le critère religieux dedans. Mais quand on parle du monde arabe, tout de suite, voilà, c'est géographique, c'est linguistique uniquement. Donc il n'y a pas le critère religieux qui entre en ligne de compte là-dedans. Donc c'est surtout pour différencier les deux entre le concept de monde arabe et monde musulman. Parce que souvent, quand on parle des musulmans, tout de suite, ce que ça nous évoque, c'est les Arabes. Or, on voit ici au niveau des statistiques, les quatre pays musulmans qui comptent le plus de musulmans en leur sein sont quatre pays d'Asie en fait. Il n'y a aucun pays arabe dans le top 4, même dans le top 5, des pays qui comptent le plus de musulmans en leur sein. Donc c'est surtout l'Indonésie en numéro 1, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Voilà. Alors, petite question. Pourquoi le Maghreb se retrouve dans le monde arabe et pas l'Afrique subsaharienne? Parce que, en fait, l'histoire va nous montrer que quoi? Que ce sont les conquérants arabes qui vont apporter l'islam au Maghreb. Donc, pendant les conquêtes, et c'est surtout, excusez-moi, le grand conquérant Ukba ibn Nafir qui va rapporter l'islam à travers les conquêtes durant le califat. Voilà, surtout dans la dynastie, durant la dynastie Omeyyade. Et donc, il va apporter l'islam au Maghreb, et tandis que ce sont les relations commerciales qui vont apporter l'islam en Afrique subsaharienne. Donc, pour le Maghreb, c'est lors des conquêtes que l'islam et l'arabe vont être apportés. Et pour l'Afrique subsaharienne, ce sont les échanges commerciaux. Vous allez me dire quelle différence entre les deux? Bah, c'est qu'en Afrique, il y a deux phénomènes qui vont être parallèles. Ben, quand la conquête se fait avec les armes et les chevaux, l'islam et l'arabe vont être apportés, mais donc quand la conquête va se faire à travers donc les armes, ben, on va apporter à la fois l'islam et la langue arabe. Mais quand la conquête va se faire par le commerce, donc à travers les échanges commerciaux, il n'y aura que l'islam qui va être apporté. Et on va retrouver le même phénomène en Asie. Donc, je me réexplique. Quand les musulmans vont faire les conquêtes finalement, et qu'ils vont arriver jusqu'au Maghreb, ils vont pas seulement apporter l'islam. Ils vont apporter l'islam, mais aussi l'arabe, la langue. Donc, les musulmans du Maghreb vont à la fois s'islamiser, mais aussi s'arabiser. Donc, il y aura les deux phénomènes qui vont avoir lieu en même temps. Par contre, quand c'est lors des échanges commerciaux, pardon, on va, voilà, on va faire des transactions commerciales, etc., etc. Mais à un moment donné, au travers de ces échanges, on va partager aussi quoi? On va partager la religion. On va apporter l'islam. Ils vont donc devenir musulmans, mais ils vont pas s'arabiser. Donc ils vont prendre juste l'islam, mais pas l'arabe. Et donc c'est pour ça que le Maghreb, il se retrouve dans le monde arabe, mais pas l'Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est clair? On va retrouver le
Ouais,
même
donc tu
phénomène.
dis ça, s'arabiser, donc c'est juste la langue ou aussi la culture et tout ce qui va avec comme un peu l'économisation.
Oui, il y a de la culture, il y a la langue, il y a plusieurs spécificités. Par exemple, si vous voulez, on a aussi ce phénomène avec l'Empire ottoman. Quand ils vont arriver jusqu'en Algérie, donc ils vont pas rentrer au Maroc, mais ils vont arriver. L'Empire ottoman va s'étendre jusqu'à l'Algérie. Mais on va retrouver même dans les costumes traditionnels des empreintes de l'Empire ottoman. Donc c'est exactement la même chose ici. C'est qu'ils vont prendre à la fois l'arabe, mais ils vont prendre aussi un peu de la culture et surtout aussi la religion qui est l'islam. Et ça, on ne va pas le retrouver en Afrique subsaharienne, ni même en Asie. Donc, en Asie, ils vont prendre l'islam, mais ils ne vont pas prendre l'arabe. Donc, ils ne vont pas s'arabiser. Et c'est pour ça que l'arabe est présent dans tout le Maghreb, parce qu'à la fois, Maghreb, si vous savez bien que les communautés d'origine sont berbères dans tout le Maghreb, mais ces communautés berbères, elles vont s'arabiser au contact donc, des conquérants, des musulmans arabes.
Ok, et si tu as dit donc l'Asie ou... Si, donc l'Asie, c'est comme l'Afrique, c'est aussi fait avec le commerce, c'est ça ?
Exactement. C'est le même phénomène qui va se produire en Asie, c'est-à-dire qu'au contact des conquérants musulmans, ils vont adopter l'islam, mais ils ne vont pas s'arabiser. Donc, ils ne vont pas prendre l'arabe. Justement, les Arabes et les arabisés. Donc, il y a beaucoup de pays arabophones qui ne sont pas arabes sur le plan ethnique, mais sur le plan culturel et linguistique. Par exemple, si on prend l'islamisation du Maghreb et de l'Afrique. Et l'exemple marocain en particulier est très significatif à ce niveau. Pourquoi ? Parce que dans certaines villes, le dialecte amazigh, il est très présent. Tandis que dans d'autres, pas du tout. C'est surtout dans les régions du nord. Et donc ici, sur le plan ethnique, c'est un seul et même pays. Mais d'accord, le Maroc, c'est un seul et même pays sur le plan ethnique. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que ce sont de grandes tribus amazighes qui vont s'islamiser et s'arabiser, tandis que d'autres tribus amazighes du Maroc, elles vont s'islamiser, mais elles ne vont pas s'arabiser. Donc au Maroc, d'où vient finalement ce côtoiement entre l'arabe et la culture et la langue amazighe, c'est que certaines grandes tribus amazighes au contact des musulmans, des conquérants musulmans, vont s'arabiser et s'islamiser, tandis que d'autres tribus amazighes, elles vont juste s'islamiser, mais elles ne vont pas s'arabiser et elles vont garder donc la langue amazighe comme langue principale. Alors bien sûr, il y aura des mélanges avec des arabes de souche, mais ils sont tellement minoritaires qu'ils vont se noyer dans l'élément ethnique amazighe qui est majoritaire. Alors, les plus grands intellectuels arabes vont se poser la question, qu'est-ce que finalement être un arabe ? Et si on dit c'est celui qui a une ascendance ou une descendance arabe, donc une ascendance des ancêtres ou une descendance arabe, il restera pas grand monde au final. Puisqu'il y a très peu de personnes qui, à la fois, du côté du Maghreb déjà, c'est mort. Mais et donc, ils ont tranché la question en estimant qu'être arabe, c'est celui qui parle arabe et qui aime l'arabe. Donc celui qui parle arabe et qui aime l'arabe. Et donc, ça nous permet d'élargir donc ce monde arabe. Donc c'est à la fois une question linguistique et une question culturelle. Alors maintenant, on va faire un focus, Inch'Allah, sur l'Arabie et le Moyen-Orient au VIe siècle. Et donc ici, c'est la période qui va précéder quoi ? Qui va précéder l'apparition de l'islam. Et pour bien comprendre et saisir la Sira, et l'histoire, de manière générale, c'est important de comprendre cette partie. Parce que le monde, il est à ce moment-là divisé en trois grands empires. L'empire romain d'Occident, c'est Rome comme capitale. L'empire romain d'Orient, Byzance, c'est ce qu'on va appeler finalement les Byzantins, les Romains et les Byzantins. Et l'empire perse. Qui a comme capitale Ctésiphon, qui est une ancienne ville qui se situe en Irak aujourd'hui. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le monde chrétien va se diviser à la fin du IVe siècle, en 395 plus exactement. Et donc ici, il va falloir attendre que quoi ? Que l'empereur de Rome, il va se convertir à l'islam. Donc l'empereur de Rome, il va se convertir au christianisme et pas à l'islam. Et à ce moment-là, l'Église va devenir dominante. Elle est persécutée à Rome, mais l'empereur va se convertir et le monde romain va devenir puissant. Mais en 395, il y a une division qui va s'opérer dans ce grand empire romain à la fin du IVe siècle, donc. Je vous montre ici. Donc, on a l'Empire romain d'Occident avec pour capitale Rome. Et l'Empire romain d'Orient. Avec pour capitale Constantinople. Alors, en 325, c'est l'empereur Théodose Ier qui va mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va décider de donner à ses deux fils, Honorius et Arcadius, une partie de ce grand empire. Donc à la base, l'empire romain, c'est tout cet empire. Ok? Et donc Théodose, lui, décide, et qu'est-ce qu'il il meurt, mais qu'est-ce qu'il décide de faire avant de mourir? C'est de partager cet empire et de le diviser entre ses deux fils, Honorius et Arcadius. Et donc, on a une partie qui va s'appeler l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et c'est pas une division qui va se faire dans un climat de guerre ou de tension, pas du tout en fait. C'est juste à la décision de cet empereur Théodose Ier qui décide tout simplement de partager, si vous voulez, son empire en deux et dit à son fils, tiens, tu prends cette moitié et toi tu prendras l'autre moitié. Alors au début du 6e siècle, l'Empire romain d'Occident va perdre aussi beaucoup de territoires. L'Espagne sera reprise par les Wisigoths, la France par les Francs, et même en Afrique du Nord, etc. Donc il y aura beaucoup de territoires qui vont être perdus par l'Empire romain d'Occident. Mais l'Empire romain d'Orient, lui, va rester très puissant. C'est important, pourquoi je vous dis ça? Parce que les musulmans vont être en contact avec qui? Avec l'Empire romain d'Orient. Mais on va y arriver. Les musulmans vont être beaucoup en contact avec pendant les guerres, etc., avec justement l'Empire romain d'Orient, les Byzantins. Et la division, si vous voulez, en 395 par l'empereur Théodose, elle est considérée comme le point de départ de l'Empire romain d'Orient. Donc, à partir du moment où l'empereur décide de scinder ce grand empire en deux, bon, on estime que c'est véritablement le début de l'Empire romain d'Orient qui va être véritablement le plus puissant des deux empires, puisque, comme je viens de vous le dire, voilà, l'Espagne va être perdue par les Visigoths, l'Empire romain va perdre aussi la France, qui va être repris par les Francs, ils vont perdre aussi des territoires au niveau du Maghreb. Donc, l'Empire romain d'Occident va se réduire comme peau de chagrin. Et ça va être surtout Rome qui va rester puissante. Mais ici, donc l'Empire romain d'Orient va rester intact et va être vraiment un empire très, très fort et très puissant sur le plan de sa longévité, donc qui se caractérise aussi par une longue période. Et pourquoi il est romain finalement? Parce qu'il reste fidèle à Rome. Et donc, quand les musulmans ils vont arriver en Syrie, en Palestine, ils vont trouver que la langue d'administration, c'est le grec. Pourquoi? Bah, parce que ces régions, elles sont dominées par qui? Par les Byzantins. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire le grec à Rome? Bah, quand Rome va conquérir la Grèce, bah, ils sont impressionnés par la culture et ils vont adopter tout simplement la langue grecque. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi les premiers évangiles sont écrits aussi en grec. Voilà. Ça fait partie de la colonisation, tout simplement. Donc, quand Rome va coloniser la Grèce, ils vont être impressionnés par la culture, par la langue du pays, et ils vont adopter la langue grecque. Et c'est pour ça qu'on va retrouver aussi beaucoup d'échanges au niveau du grec. Et donc, l'Empire romain d'Orient va être souvent, très souvent, en conflit avec l'islam. Toute la période de développement de l'islam, elle est en conflit avec qui? Avec l'Empire romain d'Orient. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc quand on va parler des Byzantins, quand on va parler des Roms, c'est l'Empire romain d'Orient qu'on évoque. C'est pas l'Empire romain d'Occident. Les contacts sont quasi inexistants avec l'Empire romain d'Occident. Donc c'est souvent l'Empire, et c'est tout le temps même, l'Empire romain d'Orient. Quand les musulmans vont conquérir et quand ils vont aller au contact des Byzantins, vont aller au contact des Romains, c'est l'Empire romain d'Orient dont il est question. Si bien que même en 476, ben c'est tout simplement la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain, l'Empire byzantin, si vous voulez. Donc quand je dis Empire byzantin, c'est l'Empire romain d'Orient. Hein. Les sœurs, n'hésitez pas à prendre des notes. Donc le cours est enregistré, les replays seront disponibles. Donc je vous donne pas mal d'informations. C'est un cours d'histoire, donc n'hésitez pas à prendre des notes et à m'interrompre quand il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc l'Empire byzantin va devenir à ce moment-là l'unique successeur de l'Empire romain en place. Et Rome est faible, elle est plus respectée, et donc il y aura quoi ? Il y aura un renforcement de quoi ? De la papauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, le pape, il est très fort, parce que finalement, il avait plus de pouvoir à l'époque. Et donc, pour garder un peu le prestige, ils vont renforcer le pouvoir du pape. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont perdre des territoires jusqu'à la chute, finalement, de l'Empire romain d'Occident, et il ne restera plus que Rome. Alors, là c'est une autre carte, hein, pour vous montrer un petit peu l'Empire byzantin qui reste très, très important. Et en 527, l'Empire romain, il ne reste quasi plus rien. Il reste quelques territoires un peu en Afrique, l'Italie, et encore un tout petit peu de territoire au niveau du, de l'Espagne, et du sud de l'Espagne, et du nord de, du Maroc. Donc c'est vraiment un territoire qui, je vous remontre, hein, on passe de ça, et puis la chute, finalement, à un territoire qui est beaucoup plus réduit, tandis que l'Empire romain d'Occident, d'Orient, pardon, les Byzantins, restent toujours aussi forts, et même, ils étendent leur conquête. Alors, l'Empire byzantin d'Orient. On va s'arrêter, justement, au niveau, et essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnait cet empire byzantin d'Orient. Alors, officiellement, l'empire byzantin, il est chrétien depuis, depuis 1313, mais ils vont posséder d'autres régions et qui ne le sont pas forcément, comme la Syrie, l'Égypte, l'Afrique du Nord. Mais d'un point de vue ethnique, il y a au Proche-Orient des Juifs, des Araméens, des Arabes, et on a, au nord de l'Afrique, il y a aussi des Coptes et des Berbères, bien évidemment. Donc c'est un empire chrétien, mais il ne règne pas que sur une seule religion. Donc c'est un empire chrétien, mais il y a d'autres religions, d'autres ethnies qui, sur lesquelles il règne. C'est un empire, et c'est une mosaïque d'ethnies. Donc il y a plusieurs ethnies différentes. Et c'est un empire, on a vu, parce qu'il s'étend sur énormément de territoires. Alors au niveau de la pratique religieuse, il y a plusieurs avis qui divisent les croyants en plusieurs groupes. Il y a ce qu'on va appeler des conciles. Alors le concile, c'est des réunions de grands ecclésiastiques, donc des grands prêtres, des grands religieux, qui vont finalement se mettre d'accord sur le bon dogme, le bon credo, la bonne aqida. Donc eux vont se faire des réunions et ils vont décider finalement c'est quoi la aqida chez nous. Et donc il sera défini, donc ce dogme, au cours de plusieurs réunions, au cours de plusieurs conciles, durant le 7e siècle. Et à la fin du concile, on va dire, voilà, ça c'est la aqida, ça c'est notre credo, et toutes les autres aqidas seront combattues. Alors, c'est quoi la aqida qu'ils ont ? Il y a le nestorianisme. Nestorianisme de Nestorius. C'est un prêtre de Constantinople qui, lui, voyait dans le Christ, donc dans Isa alayhi salam, deux natures. Donc lui disait, en fait, c'est deux personnes et une seule nature. Une partie divine et humaine à la fois. Et cette doctrine, cette aqida, si vous voulez, elle va être condamnée lors d'un conseil en 431. Donc, on dit non, cette aqida-là, c'est pas la bonne, c'est pas deux personnes. On annule. Puis vous avez le monophysisme. Et là, on estime qu'il y a une seule personne et une seule nature. On dit là aussi, non, 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 ça c'est pas une seule personne, une seule nature, pas du tout. Et finalement, la doctrine officielle du christianisme qui va être retenue, c'est quoi ? Ça va être lors du concile de Chalcédone. Et il y a deux natures dans une seule personne. Et c'est ce qu'on retient aujourd'hui, en fait. Deux natures dans une seule personne. Une seule personne, donc c'est Isa alayhi salam. Et à la fois, il a une nature divine. Donc, il est à la fois Dieu et à la fois être humain. Donc, c'est ce qu'ils retiennent. Et donc, ça va être la doctrine retenue par l'Empire byzantin. C'est l'église qui est appelée Melkite. Donc ça, c'est leur croyance. Donc ils vont organiser plusieurs réunions, ils vont définir leur aqidah, et ils vont définir finalement que leur aqidah, c'est quoi? C'est dans une seule personne qui est donc le Christ, il y a deux natures, nature divine et nature humaine. Et ça va être le credo qu'ils vont garder tout au long par la suite jusqu'à aujourd'hui encore. Donc ça, c'est l'Empire byzantin. L'Empire perse sassanite. Et donc, les musulmans vont être en contact aussi avec l'Empire perse sassanite. Et ça, c'est la partie orientale. C'est l'Irak, l'Iran, l'Arménie d'aujourd'hui. Il y a aussi des fragments de la Turquie et un peu aussi de la Syrie d'aujourd'hui. Et cet empire perse va être aussi très tôt en conflit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les califes, et va tomber sous le califat de Omar ibn Khattab. Donc les musulmans, quand ils vont être dans les conquêtes, ils vont être face à qui? Face à l'empire byzantin, donc l'empire romain d'Orient qu'on vient de voir, et l'empire perse sassanite. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des forces dans le Coran, ou des Roms, donc les Roms sont qui finalement? C'est les Romains. Oui, mais c'est qui? Les Byzantins, l'Empire romain d'Orient, et pas l'Empire romain d'Occident. C'est important de savoir ça. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des forces, les forces, c'est les Perses, l'Empire perse sassanide, c'est quoi? C'est l'Iran, l'Irak, un peu d'Arménie et quelques fragments de Turquie et de Syrie. Et donc, eux vont être très tôt en conflit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont tomber sous le califat de Omar ibn Khattab. Et donc, l'Empire sassanide, il est connu officiellement sous l'Empire des Iraniens. Empire des Iraniens, et c'est l'appellation de la dernière dynastie perse qui va exister avant la conquête arabo-musulmane au milieu du 7e siècle. Alors, en matière d'ethnie, alors, Sassanides, c'est une dynastie. Quand on dit dynastie, forcément, c'est quoi? Bah, c'est une succession de souverains, de rois qui vont appartenir à la même famille. Comme on aura la dynastie des Omeyyades, la dynastie des Abbassides, la dynastie des Mamelouks. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des gens qui appartiennent à la même famille et qui vont se succéder au poste de souverain. Donc l'Empire. Oui, madame.
J'ai juste une question, l'Empire perse sassanide, du coup, ils ont quelle religion, eux?
On va le voir tout de suite, justement au niveau de leur. C'est un melting pot. On va le voir tout de suite. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs croyances, mais on va le voir tout de suite, Inch'Allah. Donc ici, l'Empire sassanide va succéder à l'Empire parthe, et lui va rétablir les Iraniens en tant que superpuissance aux côtés de l'Empire romain. Et puis plus tard, donc l'Empire byzantin. Donc ce sera deux superpuissances, Bishadia.
J'aimerais revenir par rapport à la dynastie. Donc, tu disais une dynastie, c'est parce qu'il y aura une succession
De souverains
c'était quand pour
de la même famille.
De souverains, voilà, dans la même famille. Mais alors, les monarchies, comme on a par exemple en Belgique, ce n'est pas une dynastie, même si la reine, ce sera la fille du roi, etc. C'est aussi une dynastie ou c'est
Oui, on
la
dit
même
aussi
chose?
que c'est des dynasties, hein. Les dynasties, c'est ça, c'est vraiment
Ah,
la
ok. Donc,
succession.
c'est un terme général, c'est ça?
Voilà. Et donc là, c'est vraiment les dynasties, et ça va, c'est sur des années, comme la dynastie Omeyyade. Voilà, les Omeyyades, par exemple, Muawiya va être le premier à instaurer la dynastie au sein du monde musulman. Auparavant, ça ne se faisait pas, parce qu'on verra justement les modes de succession et d'élection des califes, bah, c'était pas basé sur les liens familiaux, pas du tout. Et donc, Muawiya va être le premier à instaurer ça dans l'histoire du monde arabo-musulman et dans l'histoire du monde musulman de manière générale. Et donc là, ça va être quelque chose qui va se perpétuer et sur de longues, plusieurs années, décennies, sur plusieurs décennies. Et donc là, on va appeler ça une dynastie omeyyade, et ça va continuer aussi se poursuivre pendant la dynastie des Abbassides. Alors, pour l'Empire perse sassanide, il sera en conflit avec l'Empire romain. Ensuite, avec la division, ce sera avec l'Empire romain d'Orient. Et au milieu va naître donc l'islam et faire tomber les deux empires. Donc, l'Empire sassanide, l'Empire perse, je viens de le dire, l'Empire perse sassanide, l'Empire byzantin, ou l'Empire romain d'Orient, mais on va garder l'Empire byzantin, ça va être plus clair. Et au milieu, en fait, ça va être la guerre entre les deux. De temps en temps, il va reprendre un peu plus de territoire, l'Empire perse. De temps en temps, c'est l'Empire byzantin. Et au milieu, on a quoi? On a l'Arabie. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va décider d'envoyer le dernier prophète. Et de là va jaillir finalement une véritable civilisation, un véritable empire qui va s'étendre et qui va faire chuter les deux empires. Alors, le centre dans l'empire perse se trouve à Ctésiphon, en territoire araméen. Et le 6e siècle va avoir le règne de Khosros. Alors, c'est peut-être un nom qui va revenir et qui vous rappelle quelque chose. Bah, c'est ça, en fait. Khosros. Et ça va être véritablement l'apogée de l'empire quand Khosros va régner. Et donc, il sera en conflit, justement, pendant le califat d'Omar ibn Khattab. Et il va écraser donc, l'empire perse à ce moment-là. Il va conclure une trêve aussi avec les Byzantins pour 50 ans. Mais la guerre va reprendre néanmoins. Et donc, finalement, toutes les guerres et les luttes internes vont affaiblir l'empire perse-sassanide qui, encore une fois, va tomber lors du califat de Omar ibn al-Khattab. Alors, pour répondre à la question de Mariam, on va voir les croyances. Oui, Shadia.
Ah oui, excuse-moi. Tu disais donc l'Arabie au milieu, donc entre l'Empire perse et l'Empire byzantin.
Ouais.
Et l'Arabie, subhanallah, elle est polythéiste à ce moment-là. Donc elle fait partie d'aucune de ces deux.
Ouais. On va voir que au nord. On va le voir, hein. Mais on va voir qu'au nord, on aura deux tribus qui sont les Lachmides et les Rassanides. Elles vont établir des contacts, un avec l'Empire Sassanide, l'autre avec l'Empire Byzantin, et ils vont les aider à chaque fois qu'il y avait des luttes entre eux. Donc chaque fois qu'il y avait des luttes,
ah, ouais.
Et donc eux vont être les suzerains, donc ils vont être les vassaux, ces deux tribus arabes, et vont apporter leur aide. C'est comme un peu l'histoire de la tribu des Khazraj et des Haus avec les Juifs. Donc on avait les Juifs qui soutenaient d'un côté les Khazraj et d'autre côté les Haus. Bah, c'est exactement la même chose ici. Donc on va avoir les Lachmides et les Rassanides qui vont venir apporter leur aide aux deux empires. Mais ici, on se rend compte que l'Arabie est polythéiste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce terrain pas de manière fortuite, pas... Voilà. Fortuite, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un terrain qui est fertile et qui va permettre justement d'apporter cette nouvelle civilisation. Et c'est cette civilisation qui va, subhanallah, faire chuter les deux grands empires de l'époque. Alors, par rapport aux croyances, d'un point de vue religieux, la religion dominante, c'est le zoroastrisme. Alors, vous allez me dire, mais zoroastrisme. Alors, c'est une espèce de secte. Et dans cette religion, il y a un dieu principal qui s'appelle Ahura Mazda. Mais il y a d'autres dieux aussi. Donc c'est un peu c'est un melting pot. Il y a le dieu Anahita, la déesse de la fécondité, la déesse guerrière. Il y a le dieu du soleil, de la justice. Ça fait un peu penser un petit peu à ce qu'il y a actuellement en Inde, où ils ont plusieurs dieux différents. Bah, c'était à peu près la même chose. Donc, mais la différence, c'est que chez eux, ils avaient un dieu suprême, chez les Perses, et d'autres dieux, si vous voulez, avec un rang qui était plus inférieur. Et sous les Sassanides, on va voir une évolution vers un dualisme, c'est-à-dire qu'il y aura deux forces entre, d'un côté, un esprit bon, Ahura Mazda, et un esprit mauvais qui est Ahriman. Donc Ahura Mazda, Ahriman, donc eux ça va être vraiment ça. En fait ils estiment que en chacun d'entre nous il y aurait une dualité entre notre esprit bon et notre esprit mauvais, Ahura Mazda et Ahriman, et que donc ces deux entités elles coexistent dans chaque être vivant. Donc ça c'est leur croyance à eux. Mais chez les Perses il y a aussi du christianisme, du judaïsme et dans une certaine mesure du bouddhisme aussi. Donc il y a à la fois le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, mais on a aussi du zoroastrisme, où c'est un mélange de plusieurs divinités, avec finalement une dualité entre deux dieux, un esprit bon, un esprit mauvais. Alors, après les deux grands empires importants que sont l'Empire romain et l'Empire perse, on va s'intéresser maintenant aux Arabes, qui vont finalement être une porte d'entrée vers ces deux empires. Mais pour ça, Inch'Allah, bi'idhnillah, ce sera pour la semaine prochaine. Déjà fini, subhanallah. Voilà les sœurs, je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était assez clair, si vous avez des interrogations, mais sinon, bi-idhnillah, la semaine prochaine. L'objectif, c'est de terminer donc l'Empire, donc cette présentation de l'Arabie au 6e siècle, avant l'apparition de l'islam, pour comprendre finalement où apparaît l'islam. Et une fois qu'on aura fini cette partie, Inch'Allah, on va démarrer l'histoire d'Abou Bakr, radiallahu anhu. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer ici, bi-idhnillah. Donc je ne vois pas. Barakallahu fikoum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bi-idhnillah, assalamu alaykoum.
On aura le support, on l'aura parce qu'en fait tous les noms, là, j'ai pas noté les noms un peu
Oui,
spéciales.
PowerPoint. le PowerPoint, je vous l'envoie, Inch'Allah. Dès qu'on finit une partie, je vous l'envoie. Donc, comme ça, vous l'avez
Ah, top,
en final.
merci.
Ça va, de rien. Salam
Shukran,
alaikum. Wa
salam
alaikum
alaikum,
salam. Salam
salam.
alaikum.